Tu seras une femme avec Anne-Cécile Melfer.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être là parmi vous. Donc merci beaucoup à Prime Vert de m'avoir invitée pour pouvoir présenter Tu seras une femme, guide féministe pour ma nièce et ses amis. Et le premier livre sur l'IVG qui s'appelle Je sais plus comment. Débat sur l'IVG. Je suis désolée, je l'ai écrit il y a 4 ans. Voilà. Alors, je vais commencer par sortir comme ça de l'actualité un peu deux choses que vous avez sûrement vues, j'imagine. MeToo et la Ligue du LOL. On va commencer par là. Alors, qu'est-ce que c'est la Ligue du LOL ? Donc, je vais juste remettre les choses, redécrire un peu et puis essayer de les analyser. MeToo et la Ligue du LOL, pour moi, c'est tout à coup les violences faites aux femmes qui rentrent dans la lumière, c'est-à-dire qui éclatent à la vue de toutes et de tous, et pas seulement des féministes et des personnes très sensibilisées au sujet. Pourquoi je dis ça ? La Ligue du LOL, ce sont un groupe majoritairement composé d'hommes, même s'il y avait quelques femmes dedans, un groupe Facebook, donc sur les réseaux sociaux, qui pendant plusieurs années se sont non seulement fait des blagues au détriment de femmes, tout de manière extrêmement majoritaire, ou de personnes racisées, et qui ont non seulement fait des petites blagues entre eux, mais également opéré un réel harcèlement, c'est-à-dire qu'ils ont c'était des hommes qui, pour la plupart, étaient journalistes, influenceurs, comme on dit aujourd'hui, donc qui commençaient à avoir une certaine notoriété sur les réseaux sociaux, et qui se retrouvaient comme ça entre eux sur Internet, en choisissant des cibles différentes, pour viser des femmes qui étaient également journalistes en devenir comme eux, et influenceuses en devenir comme eux. En se retrouvant entre hommes, majoritairement, donc même encore s'il y avait des femmes, on peut quand même voir qu'il y avait une majorité d'hommes. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un entre-soi d'hommes qui vont petit à petit détruire des ambitions particulièrement de femmes. Pas que des femmes, hein, mais particulièrement de femmes. Puisque les profils des victimes, c'était des jeunes femmes comme eux, qui étaient en école de journalisme comme eux, qui avaient des envies, qui cherchaient elles aussi à exister sur les réseaux sociaux, et ils choisissaient des cibles et ils envoyaient des sortes de raids entre eux. Donc il y a eu par exemple, ça prenait la forme de un des membres de la Ligue du LOL qui appelle pour faire une blague une des journalistes qui était ciblée pour lui faire croire qu'elle était recrutée dans une émission télévisée et diffuser ça sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour se moquer d'elle. Suite à ça, évidemment, beaucoup de commentaires pour la décrédibiliser, beaucoup de sexisme, puisque la plupart du temps, en fait, les commentaires sont des commentaires sur le physique de ces femmes, sur, évidemment, les parties qui sont sexualisées, donc sur les seins, sur le sexe. Certaines femmes qui avaient été les ex de certains d'entre eux ont même pu voir des messages qui faisaient explicitement référence à la forme de leurs organes génitaux. Et donc on a forcément, donc on a cette horde en fait de jeunes hommes qui se déchaînent un peu contre des femmes, et on a ces femmes qui se déchaînent de manière digitale, numérique, et on a ces femmes qui, au cours de ces 10 années, vont pour certaines déprimer, quitter la profession, quitter des rédactions. Et eux, ils vont petit à petit grimper les échelons, et tout particulièrement grimper les échelons dans les médias des uns des autres. Donc on voit qu'en fait, ils sont directeurs de rédaction, directeurs adjoints, ou pigistes pour ce média. Donc en fait, ils se connaissent en dehors de ce média, ils se connaissent dans ces groupes Facebook, ils éliminent des concurrentes, et ils progressent ensemble en se serrant les coudes dans la hiérarchie. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est intéressant et pourquoi est-ce que je compare ça à MeToo ? Je compare ça à MeToo parce qu'en fait, quand ces phénomènes-là de harcèlement en bande et de violence, parce que c'est quand même violent, quand on voit ce que ça génère chez les femmes, on voit que ces jeunes femmes, et la plupart d'entre elles, c'était pas c'était des femmes qui pouvaient et qui disaient d'ailleurs, ils m'ont attaqué parce que j'avais, parce que j'ai osé dire que j'avais de l'ambition. Donc en fait, on voit que ces femmes, elles sont attaquées aussi également parce qu'elles ont de l'ambition et pour un peu les maintenir la tête quoi, sous l'eau. Alors le parallèle avec MeToo, c'est quoi? C'est que dans la presse, aux postes hiérarchiques les plus importants, on va retrouver majoritairement des hommes. Et dans le cinéma, c'est un peu la même chose. Et pour moi, ce qui est très, très intéressant de ces deux dernières années, c'est que donc on voit, et c'est ça que j'aimerais voir avec vous pendant la quinzaine de minutes ou 20 minutes pendant lesquelles je vais parler avant d'ouvrir aux questions, c'est à quel point les inégalités entre femmes et hommes et les violences faites aux femmes, elles sont liées. C'est-à-dire à quel point, quand on voit que dans un secteur, et donc dans la société en général, il y a des inégalités entre les femmes et les hommes, en réalité, ça vient aussi du fait qu'il y a des violences qui sont perpétrées contre les femmes dans ces secteurs-là. Donc la Ligue du LOL, on voit comment ? C'est-à-dire avec ce genre de cyberharcèlement, on a des femmes qui dépriment, qui lâchent l'affaire, qui quittent les rédactions, et donc les hommes qui continuent à grimper. MeToo, dans le milieu du cinéma, qu'est-ce qu'on a ? C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a des femmes qui sont qui sont brisées en fait par des violences sexuelles qu'elles peuvent subir. Donc on a des témoignages de plusieurs femmes qui avaient des carrières prometteuses dans le cinéma, et puis elles rencontrent Weinstein, et là, viol, et s'enchaîne évidemment pour beaucoup d'entre elles une période très compliquée. À gérer pour gérer le traumatisme en fait des violences sexuelles. Et donc ensuite, il ne faut pas non plus trop s'étonner qu'il y ait à la fin du compte plutôt des hommes dans des sphères de pouvoir et plutôt et que les femmes en soient écartées. Alors donc ça, on va regarder ça un petit peu ensemble si vous voulez bien. Alors qui suis-je ? Donc moi, je suis Anne-Cécile Maillefer. Aujourd'hui, je suis présidente de la Fondation des Femmes, une fondation que j'ai cofondée avec d'autres personnes qui, comme moi, étaient révoltées par les inégalités, les violences faites aux femmes et voulaient œuvrer pour changer les choses. J'habite à Paris. Je suis blanche. J'ai fait des études que certains considèrent comme des hautes études. Je précise ça parce que évidemment, ça a évidemment un impact sur ce que je fais, sur la manière dont je le fais et ce que je pourrais dire. On a créé la Fondation des Femmes parce que, avant la Fondation des Femmes, j'étais présidente et porte-parole d'Oser le Féminisme. Et de mon engagement militant auprès d'associations diverses et variées, mais particulièrement évidemment Oser le Féminisme, j'ai pu voir qu'en fait, il y avait des tas de choses qui se passaient, qui étaient extrêmement intéressantes sur le sujet des droits des femmes, sur la lutte des femmes, la cause des femmes, et qu'en face, en fait, il y avait très peu de moyens pour pouvoir développer ces actions-là. Je vous donne un exemple. En 2011, je rencontre Marie Servetti, bon, c'est quelqu'un que je rencontrais fréquemment, qui dirige le FIT, Une Femme, Un Toit. C'est un centre d'hébergement pour les jeunes femmes victimes de violences sur Paris. C'est le seul centre d'hébergement spécialisé sur les 18-25 ans en France. Elles ne peuvent en accueillir que 60 par an. Elles en refusent 400 par an. C'est-à-dire que 400 en Ile-de-France par an qualifient absolument pour rentrer dans ce centre-là, mais ne peuvent pas puisqu'il n'y a pas de place. Et donc elle me dit, je suis dégoûtée, la mairie de Paris était prête à nous mettre à disposition un lieu, mais il me fallait 100 000 euros pour le rénover, le mettre en place et faire fonctionner ce centre. Et moi, 100 000 euros, je ne les ai pas. Et donc je me suis dit, mais c'est quand même complètement dingue qu'il n'y ait pas une manière de trouver facilement et rapidement 100 000 euros. Parce que 100 000 euros pour tout un chacun, c'est beaucoup d'argent. Mais en vrai, 100 000 euros, ce n'est pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire 100 000 euros pour une entreprise, pour une collectivité, pour si on s'y met ensemble, c'est pas beaucoup d'argent, 100 000 euros. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de lieu qui, justement, pouvait permettre de récolter des fonds pour pouvoir les dispatcher sur des projets comme ça, intéressants et impactants. Et donc, je me suis dit, OK, il n'y en a pas, on va râler qu'il n'y en ait pas. Donc, à un moment donné, il faut aussi peut-être se bouger pour qu'il y en ait. Et donc voilà, avec d'autres, on a décidé de créer la Fondation des Femmes dont l'objectif est de donner des moyens aux actions qui promeuvent l'égalité et qui luttent contre les violences faites aux femmes. Vous en avez peut-être entendu parler, on a lancé par exemple une campagne en mars 2018, donc quelques mois après le lancement de MeToo, qui s'appelait « Maintenant on agit ». Une campagne en fait pour alerter l'opinion publique sur une réalité qui était que suite à MeToo et à Balance ton port, beaucoup de personnes avaient tweeté. La réaction, c'était « Oui, Twitter, c'est bien, mais allez plutôt porter plainte, appelez plutôt les associations, c'est là où vous aurez des réponses et des solutions. Beaucoup de personnes qui ont signifié qu'elles avaient été, qui ont témoigné du fait qu'elles avaient été victimes de violences, se sont effectivement tournées vers les associations. Certaines d'entre elles ont reçu plus de 60% de demandes. 60% de demandes en 2 mois. C'est impossible à gérer pour des associations qui sont très très petites. L'Association contre les violences faites aux femmes au travail, c'est 5 juristes pour toutes les violences sexuelles au travail en France. 5 juristes. Donc, et c'est des cas qui durent plusieurs années. Donc vous vous imaginez bien que quand elles ont 50-60% de demandes en plus, juste elles ont les dossiers qui s'empilent et elles ne peuvent pas, physiquement, c'est pas possible, elles ne peuvent pas y répondre. Le téléphone sonne, elles ne peuvent pas répondre plus. Donc elles avaient besoin de plus de moyens et donc on a lancé cette campagne « Maintenant on agit » pour dire « on a tweeté, on a témoigné, on a balancé, on a même polémiqué et maintenant il est important et urgent d'agir et de donner des moyens aux associations qui très concrètement vont accompagner les femmes quand elles le souhaitent, comme elles le souhaitent, par exemple pour porter plainte comme l'Association contre les violences faites aux femmes au travail. Et donc grâce aux dons qu'on a récoltés, on a pu aider l'Association contre les violences faites aux femmes au travail à réouvrir leur standard téléphonique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction des pouvoirs publics, en tout cas de l'État, sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu une dotation supplémentaire en disant c'est MeToo, c'est Balance ton port, il se passe un truc dans la société, il y a un truc qui se passe. Il faut que les pouvoirs publics accompagnent ça. La mairie de Paris a fait un peu, la région Île-de-France a fait un peu. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement en Rhône-Alpes, mais j'imagine pas énorme de trucs. Et donc, c'est hallucinant parce que dans d'autres pays, ça a été l'effet complètement inverse. Quoi. Le Canada a mis 20 millions de dollars sur la table suite à MeToo parce qu'il s'est dit, en fait, il y a un afflux de femmes, elles parlent pour la première fois. Si pour la première fois où elles composent le numéro, il n'y a personne au bout du fil pour leur répondre, elles ne vont pas rappeler 10 fois. Donc il faut, c'est maintenant ou jamais qu'il faut mettre des moyens en face pour accompagner justement ce qu'on a appelé la libération de la parole. Ce qui, bon, ça on pourra discuter de est-ce que c'est une libération de la parole ou une libération de l'écoute. Mais en tout cas, l'écoute n'était pas libre dans le sens où il n'y avait pas assez de téléphones pour répondre et il n'y avait pas assez de femmes ou d'hommes ou d'écoutantes et d'écoutants au bout du fil pour justement répondre aux questions des femmes dans ce contexte-là. Dans les autres choses que j'ai fait, donc, j'ai publié 2 livres, dont un qui s'appelle « Tu seras une femme », guide féministe pour ma nièce et ses amis. Alors ce livre, je l'ai écrit parce que ma nièce, donc j'avais pas d'enfant à ce moment-là, et ma nièce, elle a eu 15 ans, et je l'aime beaucoup, et en fait je me suis dit, le début des problèmes, c'est horrible, hein, quand vous êtes féministe, vous avez... une vision des choses qui parfois est un peu déprimante. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, quoi ? Qu'est-ce que je lui dis ? Est-ce que je lui dis la vérité ? Et donc elle va stresser à mort. Est-ce que je lui dis rien ? Et donc elle ne sera pas non plus en capacité de pouvoir peut-être comprendre, prévenir, réagir. Qu'est-ce que je fais ? Comment je lui explique le destin qui l'attend parce qu'elle est née femme ? Parce que quand on est femme, on n'a pas le même destin que quand on est homme. Quand on est femme, donc c'est pas de moi, c'est une citation anglaise qui dit ça, c'est les 3 mots les plus mortels de l'humanité, c'est une fille. C'est une fille condamne à mort des centaines de millions d'êtres humains. C'est une fille, ça fait qu'il y en a 100 millions qui manquent entre l'Inde et la Chine, qui manquent, ça veut dire qui ont été tués. 100 millions, c'est gigantesque, parce que ce sont des filles. Donc, quand on est femme, le destin qui nous attend est un peu différent. Mais je ne veux pas non plus vous faire déprimer, ni faire déprimer ma nièce. Il y a plein d'autres choses cool qui nous attendent aussi, dont le fait d'être féministe. Ça, c'est très, 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 très cool. Et donc, en fait, j'avais envie d'expliquer ça. Qu'est-ce que c'est quand tu es femme ? Qu'est-ce que c'est tu seras une femme ? Tu seras une femme, c'est à la fois l'injonction qu'on dit aux filles. C'est-à-dire que si tu nais avec un sexe féminin, il faut que tu sois femme. Et il faut que tu sois femme, ça veut dire plein de trucs, quoi. Ça veut dire qu'il faut que tu aimes le rose. Je vais faire les trucs bateaux, mais au moins comme ça, on sera toutes sur le même, et tous sur le même niveau de... Tu aimes le rose. Donc tu es dans cette boîte féminine, donc tu aimes le rose. Tu dois être sensible, tu dois faire attention aux autres, tu seras généreuse. Alors il y a plein de trucs hyper chouettes, hein, dans tout ce qui est accolé au féminin. Des choses que j'adore par ailleurs, l'altruisme. Je trouve que c'est des valeurs superbes. Le fait de prendre soin des autres, le fait de faire passer les autres avant, le fait d'être douce, le fait d'être collaborative. Et donc, tu ne seras pas le reste. Et le reste, c'est tu as, pour les hommes, c'est les valeurs qu'on attribue au masculin. Ça va être des valeurs comme tu aimes le football, tu aimes le bleu. Bon, ça, c'est la base. Un peu genré, on va dire, qu'on va retrouver. Il suffit d'aller dans un magasin de jouets hein, pour voir à quel point, encore aujourd'hui, il y a des rayons filles et des rayons garçons, des rayons roses et des rayons bleus. Et au-delà de ça, c'est non seulement le foot et le bleu. À la limite, ce serait pas si grave, on va dire. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'en fait, quand tu es un garçon, tu es aussi assigné à être fort, volontaire, ambitieux, aventurier. Et en fait, quand on regarde ces deux boîtes, elles sont particulièrement inégales. C'est-à-dire qu'il y a non seulement deux genres, jusque-là, à la limite, pourquoi pas catégoriser ? Parce que c'est vrai que l'être humain, il a besoin. C'est-à-dire que moi, je me dis, ça, c'est une cruche. Alors même que je n'ai jamais vu une cruche de cette forme-là, mais c'est une cruche parce que c'est un contenant avec de l'eau dedans, donc c'est une cruche, quoi. Donc je catégorise ça comme une cruche. Donc, alors c'est pas pour comparer les femmes à des cruches, évidemment, donc pourquoi pas pour se dire, ok, une femme c'est comme ça, d'accord. Mais le problème aussi, qui est pour moi particulièrement grave, c'est que les sexes, les genres sont hiérarchisés. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'est pas neutre. Le genre n'est pas neutre. Le genre, en fait, c'est des femmes et des hommes, du masculin et du féminin, et plus particulièrement, le masculin domine le féminin dans tous les aspects de la vie et de la société, et ça a été imaginé comme ça. C'est-à-dire que l'objectif de la création de ces deux genres, de catégoriser la population en deux boîtes, c'est de pouvoir faire en sorte que l'un domine l'autre. Alors, ce n'est pas des choses qui sont sorties comme ça de nulle part. Hein. Il suffit de regarder la réalité réelle. Aujourd'hui, les femmes possèdent 1% des richesses mondiales. Aujourd'hui, les femmes sont immensément plus sujettes aux violences, et tout particulièrement aux violences sexuelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes pauvres, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes qui sont victimes de violences sexuelles, évidemment. Mais il s'avère que les femmes sont victimes, dans leur immense majorité, de tout ça. Donc j'ai voulu expliquer ça, j'ai voulu expliquer les corps aussi, parce que les femmes c'est aussi un corps. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les corps comptent quand même, ça veut dire que parce qu'on, et c'est de là que vient justement cette inégale, cette création de ces deux genres et cette hiérarchie sexuelle, c'est que les femmes elles ont cette capacité de faire des bébés. Et d'ailleurs, la hiérarchie des sexes, c'est Françoise Héritier qui l'explique comme ça, vient justement de cette découverte du fait que les femmes n'engendrent pas magiquement des enfants. Elles engendrent des enfants parce qu'à un moment donné, il y a la fécondation avec un homme, ce qui fait qu'elles sont enceintes et ce qui fait qu'elles ont des bébés. Et donc, à partir du moment, c'est l'explication anthropologique de Françoise Héritier, à partir du moment où les hommes se sont rendus compte que ce qu'il déposait à l'intérieur de la dame, ça devenait un enfant plus tard. Il y avait un lien. Et donc, il pouvait y devenir propriétaire du produit final, quoi. Et donc, il fallait absolument contrôler les sexualités des femmes et contrôler la reproduction, l'accouchement, pour pouvoir, justement, avoir la maîtrise sur ce qui était un peu d'eux, quoi. Donc les corps des femmes, c'est pas complètement anodin, quoi. Les corps des femmes, ça compte même énormément. Et en plus, nos corps sont aussi ce qui est montré, ce qui est affiché. Nos corps sont aussi ce qui sont pris. Quand on prend une femme, ça veut dire qu'en fait, on s'accapare son corps, on s'accapare sa sexualité. Donc il y a quelque chose de très physique dans la domination des hommes sur les femmes. C'est pas qu'une domination qui est c'est pas quelque chose sur une fiche de paye, quoi. C'est pas que des inégalités sur une fiche de paye. C'est quelque chose qui est très, qui arrive à une matérialité, quoi. C'est très matériel, la domination des hommes sur les femmes. Ça a des conséquences physiques sur les corps des femmes. Ne serait-ce que l'épilation, par exemple. Ce serait quand même ultra cool si les poils étaient à la mode. Ce serait vachement mieux, non ? Mais non. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi ? Est-ce que vraiment on adore ? Est-ce que vraiment on fait ça pour soi, d'aller chez l'épilatrice ou de faire ça à la maison ? Est-ce que vraiment c'est agréable de se faire arracher des poils ? Pourquoi les hommes ne le font pas ? Mais parce que ça fait mal ! Ça fait super mal ! Mais non, on dit, allez, tu peux aller prendre soin de toi. Je te paye une demi-heure chez une esthéticienne pour te faire hacher les poils. Ah, merci, super cadeau d'anniversaire. Donc nos corps, ça a un impact sur nos corps, à la fois sur, par exemple, les poils. Ça a aussi un impact sur la manière dont on se déforme, dont on se contraint dans les fringues, dont on se déforme. Par exemple, pour les femmes qui peuvent être anorexiques, pour les femmes qui peuvent être boulimiques, pour les femmes qui font des régimes à répétition. Tout ça, c'est aussi cet impact. Et en plus, on nous fait croire, on arrive à imaginer qu'on fait ça pour nous. C'est-à-dire que on fait ça pour nous, on se sent belle pour nous-mêmes. On arrive à se le mettre dans le crâne, quoi. C'est ça qui est dingue. Et à quel point la domination, elle est aussi un peu partout. Elle est culturelle, elle est toute fine comme ça. Elle passe dans plein de choses. On arrive à penser que on fait ça pour nous-mêmes, quoi. Et dans une certaine mesure, on fait ça pour nous-mêmes aussi. Et ensuite, je parle de ça et je parle aussi de la maternité dans le livre parce que j'en arrive à la question du pouvoir. Et je pense que c'est très important de faire le lien. Je le ressens particulièrement aujourd'hui parce que je suis maman. Et en fait, j'ai franchement plus le temps de rien. Je ne sais pas comment font les autres. Vous êtes des héroïnes. Mais le temps, en fait, c'est quelque chose qui est primordial. Le rapport du temps au pouvoir, c'est absolument essentiel. Le temps, il est primordial parce que c'est quand on a le temps qu'on peut déjà réfléchir, qu'on peut penser, qu'on peut élaborer des concepts, qu'on peut devenir philosophe, écrivaine. Une chambre à soi, ça c'est Virginia Woolf, elle dit qu'il faut que les femmes elles puissent avoir un peu quelque argent et une chambre à soi, mais une chambre qu'elle peut fermer, dans laquelle on l'emmerde pas. Et elle peut réfléchir, elle peut faire ses trucs, elle peut penser, elle peut être elle-même, élaborer ce qu'elle est. Et franchement, quand on a un boulot et une famille, et même si on a un mec super féministe, c'est hyper dur d'avoir du temps. Et le temps, ça c'était aussi Hannah Arendt qui parle beaucoup de ça, sur le fait que pour elle, en tout cas, c'est vraiment pour élaborer des concepts, c'est obligatoire d'avoir du temps où on ne fait rien d'autre que réfléchir. Et donc ça veut dire, en fait, on est posé sur son canapé, par exemple, et on ne fait rien, même s'il y a un truc qui traîne. On ne fait rien et on réfléchit. Et ça, c'est quand même difficile parce qu'on n'est pas vraiment formaté pour soi. Donc le temps, en tout cas, c'est absolument essentiel. C'est aussi essentiel pour développer son réseau, pour pouvoir prendre le temps aussi en entreprise, d'aller discuter avec les gens, d'aller boire des bières, de voir des matchs de foot. Et là encore, on retombe sur la ligue du LOL. C'est-à-dire que quand on a le temps d'aller effectivement se voir entre mecs pour aller voir des matchs de foot et qu'on se file des tuyaux, on se file des infos, on dit « Ah bah tiens, il y a un poste qui se libère ». Donc il y en a qui sont prévenus avant les autres. Et puis il y en a qui sont potes avec les autres et qui se sont fait bien voir, c'est beaucoup plus difficile. Et puis la politique aussi, parce que là aujourd'hui, je ne sais pas comment j'aurai le temps de faire de la politique. La politique, c'est aussi le temps et la disponibilité mentale d'aller voir les gens, d'aller voir les associations, de réfléchir, de faire ensemble, du collectif. Le collectif, et vu que vous êtes ici, je sais que vous êtes toutes et tous vraiment penchés sur évidemment sur le collectif. Le collectif, ça prend un temps phénoménal pour faire en sorte que tout le monde soit d'accord avec tout le monde. Donc la politique et l'entreprise nécessitent aussi du temps, et c'est comme ça aussi que les femmes sont exclues du pouvoir. Et enfin, je parlais de demain dans le livre. Mais avant ça, je vais peut-être approfondir un autre concept, parce que dans demain, je voulais parler d'écoféminisme et je voulais terminer par ça. Donc, j'ai pas développé dans ce livre quelque chose que j'ai beaucoup plus développé depuis à la Fondation des Femmes. C'est la question, en fait, de la justice. La question de la justice et de la police. Ce qu'on a vu avec MeToo et donc là, la Ligue du LOL aussi, c'est comment les violences sont en réalité centrales quand il s'agit d'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est pas, il y a pas d'un côté les violences avec des fous furieux qui font des trucs bizarres et de l'autre côté des inégalités et tout d'un coup pas de femmes dans les lieux de pouvoir et on ne sait pas pourquoi. Donc les choses sont évidemment beaucoup plus liées. Mais l'autre chose qu'on a vu aussi avec MeToo, c'est ce qu'on est en train de voir là tout de suite maintenant. C'est-à-dire que, ok, on a dénoncé, les femmes, elles ont dénoncé. Elles ont essayé de trouver de l'aide auprès des assos. Bon, ça fait son chemin, c'est pas encore facile parce qu'on n'a pas les moyens, mais on essaye d'aider toutes celles qu'on peut. Mais il y a la justice. C'est-à-dire que les violences faites aux femmes, c'est des atteintes à l'intégrité, à la dignité, des atteintes aux personnes, des atteintes ultra graves. Le viol, c'est un crime. Et c'est un crime qui est complètement impuni. C'est-à-dire que le viol, c'est 10% des femmes violées qui portent plainte. Donc, victimes de viol ou de tentatives de viol, c'est plus de 90 000 en France. Plus de 90 000, c'est plus que toutes les femmes de Grenoble. J'avais fait le... En un an. J'avais fait le comparatif, parce que 90 000, comme ça, ça fait beaucoup, ça fait pas beaucoup, on sait pas trop. Le paquet, il est grand comment, on sait pas. Bon, bah, en gros, la ville de Grenoble, si toutes les femmes de 0 ans à 110 ans, toutes, elles étaient violées en un an. Ou tentatives de viol en un an. Donc, c'est quand même beaucoup de gens, quoi. C'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Et face à ça, il y a que 10% des femmes qui portent plainte. Et sur ces plaintes, que se passe-t-il ? Eh ben, en réalité, il y a moins de 1% des violeurs qui sont condamnés. Et d'ailleurs, ils sont de moins en moins condamnés. C'est ça qui est complètement hallucinant. On a analysé le nombre de condamnations pour viol dans les 10 dernières années et il y a 40% de condamnations en viol pour moins. Alors l'idée n'est pas, et on pourra discuter après de la prison, etc., c'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un crime, qu'il y a des lois qui sont censées condamner ce crime et que très concrètement, c'est le crime le plus impuni de la société française. En vrai, c'est feu vert, quoi. Il ne se passera rien pour 99% des violeurs en France. Donc la justice est clairement à la traîne en ce qui concerne les condamnations, et le fait que la justice soit à la traîne, c'est quand même un manquement. Les femmes sont des citoyennes, les femmes elles payent leurs impôts. Quand il y a une atteinte à leur dignité, à leur corps, il faut qu'elles puissent évidemment avoir justice. Et non. Et puis la police elle est aussi à la traîne. Quand on voit la manière dont ça se passe quand les femmes portent plainte au commissariat, nous on a fait une enquête là-dessus à la Fondation des Femmes il y a quelques mois sur les suites de MeToo et de l'affaire Weinstein. Plus de la moitié des femmes qui sont allées porter plainte, et il y a eu un accroissement de dingue. Il y a eu 30% de plaintes en plus en 2018, ce qui est hallucinant. C'est du jamais vu, 30% de plaintes en plus pour violences sexuelles. C'est un truc de ouf. Plus de la moitié d'entre elles disent qu'elles ont été mal reçues, qu'elles sont pas contentes de la manière dont ça s'est passé. L'année de MeToo, ils pouvaient pas faire un effort ? Donc il y a quand même quelque chose qui a changé là-dessus. Et donc, ce qui est essentiel là-dessus... Et nous, à la Fondation des Femmes, on travaille beaucoup sur cette question de comment est-ce que les femmes, finalement, deviennent vraiment des citoyennes à part entière et les crimes et violences qu'elles subissent immensément majoritairement, comment est-ce que ça devient des vrais sujets sociétaux, y compris des sujets pour la justice. C'est-à-dire qu'on ne mette pas ça d'un côté. C'est pas normal que les atteintes aux biens, par exemple, quand vous fauchez un champ OGM, je ne sais pas, je dis ça, ou les atteintes aux biens, quand vous portez atteinte à la façade d'un immeuble, quand vous détruisez quelque chose, c'est pas normal que ce soit plus puni que quand vous détruisez un être humain, quand même. Mais c'est ce qui se passe en France aujourd'hui. Et il suffit de regarder les chiffres. Alors, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre les violences faites aux femmes et donc, dans le même temps, pour permettre plus d'égalité entre les femmes et les hommes, puisque moi je suis absolument persuadée, je le répète, que violence faite aux femmes et inégalité sont intrinsèquement liées. Le jour où les femmes n'auront plus peur d'être atteintes dans leur intégrité physique par leur supérieur hiérarchique, le jour où on n'aura plus ou dans leur foyer ou dans leur lieu de travail, le jour où on arrêtera de les dénigrer, de les rabaisser, je suis persuadée qu'à ce moment-là, l'égalité, elle adviendra. C'est-à-dire que oui, il faut, comme ce qui se passe beaucoup là souvent dans les entreprises en ce moment, puisque l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est à la mode et c'est bien, il faut que ça reste à la mode, parce que sinon c'est la merde. Donc il faut que ça reste à la mode, l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais dans les entreprises aujourd'hui, on est surtout sur une égalité dont les femmes sont responsables. Donc il faut qu'elles prennent des cours de coaching pour apprendre à parler en public. Et il faut qu'elles apprennent à négocier leur salaire. Oui, mais sauf qu'en fait, on a fait les études, quand les femmes, elles demandent une augmentation, elles ont 25% de chances en moins de l'avoir que quand c'est un homme qui la demande. Ok, il faut qu'elles demandent. Si elles ne demandent pas, elles ont zéro chance de l'avoir. Mais quand même, c'est pas que de leur faute, on va dire. Et je parle là uniquement d'égalité, mais tout ce qu'on vient de se dire sur la manière dont les femmes sont brisées à plein de moments différents de leur carrière, et j'imagine que vous, toutes les femmes qui sont dans cette assistance, ont vécu ou connaissent quelqu'un, une femme qui a vécu ce genre de choses, c'est-à-dire comment elles ont été, à un moment donné, elles avaient des envies et ces envies ont été brisées. Et ces ambitions sont brisées. Donc oui, donner des cours aux femmes pour qu'elles aient de l'ambition, mais déjà à la base, si on ne brisait pas nos ambitions, ce serait quand même important. Alors, donc les freins à la vie professionnelle, à l'égalité professionnelle, il y a ces violences. Il y a évidemment ce que je vous ai dit sur la maternité, le temps pour soi. Dans le temps pour soi, il y a aussi cette notion essentielle, et là on va sortir un sondage dans quelques jours, qui montre que les Françaises et les Français sont immensément favorables au congé paternité obligatoire de 6 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire un congé paternité obligatoire ? Ça veut dire qu'en fait, quand l'enfant arrive, les deux s'arrêtent. Parce qu'aujourd'hui, pour celles qui l'ont vécu, les femmes, elles ont un congé. Et puis, au bout de 3 jours, eh ben, monsieur n'a plus de... C'est-à-dire, c'est 11 jours, samedi et dimanche compris. Donc, c'est même pas 11 jours en vrai, les congés paternité. Une grosse arnaque. Et en fait, au bout de quelques jours, quoi, au bout de 4-5 jours qu'on est rentré à la maison, on se retrouve toute seule avec l'enfant. Sachant que pour la plupart du temps, on a quand même encore des séquelles physiques de l'accouchement et de la grossesse, parce que c'est quand même un truc de malade, quoi. On a quand même créé un être humain pendant 9 mois, et on l'a sorti. Donc on est dans un état qui est quand même pas au top. Enfin, je sais pas, il y a des superwomen, mais bon, moi, c'était pas mon cas. Donc un état pas au top. Et là, vous devez être toute seule à vous occuper du gamin la journée. Et comme monsieur travaille la journée, la nuit, qui est-ce qui se lève ? C'est pas souvent monsieur. Mais bon, des fois c'est le cas, mais c'est pas souvent monsieur. Et donc toutes les mauvaises habitudes, elles se prennent à ce moment-là. Donc le congé paternité obligatoire, c'est une des mesures qui permettent en fait de faire en sorte que, à l'arrivée du premier enfant ou du deuxième, les habitudes de répartition des tâches peuvent se prendre. Alors, et pour conclure, je conclurai là-dessus. Je pense que le féminisme, c'est quelque chose d'essentiel, pas juste que pour les femmes. Donc c'est ce que je dis dans ce petit bouquin et c'est ce que je répète tout le temps. Je pense que le féminisme, c'est vraiment les féminismes d'ailleurs, parce qu'il y a plein de féminismes différents, mais de toute manière tous les féminismes pour moi, parce qu'ils remettent en cause la domination mère, la domination fondamentale qui est la domination des hommes sur les femmes, ils nous permettent de penser toutes les autres dominations, et y compris la domination des hommes sur la nature. Et je dis les hommes et pas les humains. Parce qu'en fait, quand on compare la manière dont les humains dominent la nature et la manière dont ils dominent les femmes, on voit d'énormes convergences. Par exemple, et là encore, c'est l'écoféminisme qui montre ça, on pense l'agriculture, par exemple, sur c'est les hommes qui vont féconder la terre. Donc on est dans une attitude très active des humains et très passive de la nature, un peu comme quand un homme féconde une femme. Alors quand même que la moitié de l'œuf, c'est la femme, hein. Mais bon, voilà. Et le 100% du reste du boulot aussi. Donc, il y a ça. La manière dont on... Tous les attributs de la nature, c'est-à-dire que... Et d'ailleurs, souvent, la nature est comparée à quelque chose de féminin, de rond, de généreux. La manière dont on va pénétrer la nature, dont on la forme, dont on la transperce, la manière dont on l'objectifie, la manière dont on la... dont on ne pense pas ses droits, dont on... n'évite, dont on la considère vraiment comme subalterne. Quand on fait le lien entre les deux, c'est ce que font les écoféministes, on voit à quel point femmes et nature ont une sorte de destinée un peu comparable, de destinée en fait de un peu de avec une vision assez destructrice pardon, des hommes sur la nature, de la même qu'ils le sont sur les femmes. Donc penser ça, c'est penser à la fois penser le féminisme, c'est penser les rapports non seulement des hommes sur les femmes, mais aussi des humains sur la nature. Et c'est penser aussi le monde de demain. Le monde de demain qu'on est en train de façonner avec les nouvelles technologies, avec tout ce qui est la data. Et là encore, ce matin, je lis un article hallucinant sur le gender data gap. Donc c'est en fait comment les données pour élaborer des nouveaux produits et des nouvelles... méthodes et des nouveaux services sont élaborés sur des données avec comme humain de référence un homme blanc de 30 ans. Ce qui donne des trucs comme résultat, en fait, la chaleur corporelle des hommes et la chaleur corporelle des femmes n'est pas tout à fait les mêmes. Donc, la température moyenne dans les bureaux aux États-Unis est carrément trop froide pour les femmes et à pile bonne température pour les hommes. Donc, en été, elles se baladent avec des écharpes et les mecs en short. Mais ça va jusqu'à la manière dont les gilets pare-balles, par exemple, sont construits. Ils ne sont pas construits, les gilets pare-balles, pour avoir une poitrine. Donc, il y a des femmes qui ont été tuées en Grande-Bretagne, des policières, parce qu'il y avait un problème, parce qu'à cause de leur poitrine, il y avait des bref, le truc n'était pas bien ajusté, quoi, et donc elles sont mortes. Ou les car crash, donc les accidents, quand on teste les accidents de voiture... Et la résistance du ballon, on les teste sur un homme blanc de 30 ans. Donc il y a plein de trucs qu'ils n'ont pas pensé pour les femmes et qui même mettent leur vie en danger. Donc ça va du petit, si t'as trop froid l'été, maintenant tu sais pourquoi. Par exemple, dans les TGV, j'imagine que c'est peut-être ça, mais j'ai caille dans les TGV l'été, je sais pas vous. Et puis la manière dont ça va carrément jusqu'à des trucs plus graves, bien plus graves. En tout cas, tout ça pour dire que le féminisme et penser l'égalité entre les femmes et les hommes et toujours avoir l'attention de se dire non, il n'y a pas un être humain neutre, ça n'existe pas en fait, qui est sur la base du masculin. Le masculin n'est pas neutre, le masculin il est politique. Et c'est de la même manière que de se dire non, la référence, le centre, le point central, non, ce ne sont pas les hommes. Et ce ne sont pas les hommes, ça veut dire ça peut être les animaux, ça peut être la nature, ça peut être les femmes aussi, ça peut être les enfants. Et donc c'est pour ça que le féminisme, pour moi, est vraiment une manière de voir les choses qui est particulièrement importante, précurseur, fondamentale pour le XXIe siècle.
Le débat peut commencer. Est-ce qu'il y a des questions ? Bon, je vais commencer par monsieur.
Merci pour votre témoignage. Vous faites beaucoup de constats et j'aurais aimé savoir, en fait, concrètement, donc, comment on fait changer les choses ?
Alors concrètement, comment on fait changer les choses ? Je pense qu'il y a plusieurs domaines où les choses, où il y a encore vraiment plein de trucs à faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que l'égalité, on y est, vu qu'il y a toutes ces inégalités que je vous ai listées. Ah, on entend pas, pardon. Comment est-ce que concrètement on fait changer les choses ? Concrètement, il y a plein de trucs à faire. Je vous l'ai dit, par exemple, sur la police et la justice, il y a un énorme gap de progrès, quoi. On peut vraiment faire énormément de choses en améliorant la manière dont les plaintes elles sont traitées dans les commissariats, dont les plaintes elles sont jugées ensuite, et dont les auteurs, les agresseurs, les auteurs de violences, sont aussi jugés et idéalement traités, quoi, en quelque sorte. Parce que, bon, la prison, ça peut aussi les rendre encore plus dingues, donc on est bien barré quand ils sortent. Ça, c'est des décisions politiques qu'on peut prendre ou qu'on peut ne pas prendre. Autre exemple, il y a 130 femmes qui sont tuées par an, en gros. C'est un chiffre que je connais bien parce que c'est quasiment le même tous les ans. Donc, en gros, ça bouge pas quand même. Et ça ne bouge pas. Et nous, on a évalué, on s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait faire un truc ou est-ce que c'est, je sais pas, comme genre la foudre. La foudre, ça tombe tous les ans. On a une moyenne d'éclairs quoi, qui tombent. Et donc, soit on se dit, bah, tous les ans, la foudre tombe. Donc, il faut juste pas se mettre en dessous de l'arbre à ce moment-là. Donc, on va faire de la prévention pour les jeunes filles. Donc, on va leur dire... fais attention, sors pas en mini-jupe, fais pas ci, fais pas ça. Parce que ça va te tomber, parce que sinon ça te tombe dessus, on sait pas d'où ça tombe, on sait pas de qui ça vient. Ou alors on se dit que c'est pas comme un phénomène météorologique, en fait c'est une culture, il y a une culture des violences faites aux femmes, ce qu'on appelle aussi une culture du viol, si vous voulez on pourra revenir sur ce concept après, qui fait que c'est globalement pas assez puni, si ce n'est toléré, si ce n'est parfois encouragé aussi dans certains discours, certaines blagues misogynes, certaines manières d'éduquer les petits garçons aussi, ce qu'on appelle la masculinité toxique. Et donc, quand on a voulu regarder concrètement comment on fait pour améliorer les choses, pour juste essayons de faire en sorte qu'il y ait moins de femmes qui soient tuées. Déjà, c'est la, comment dire, c'est le plus urgent, moi je dirais, c'est la base de la base, quoi. Quand est-ce qu'elles sont tuées ? Elles sont tuées la plupart du temps quand elles s'en vont. Quand elles vont porter plainte, quand elles s'en vont pour la première fois ou pour la deuxième fois, c'est là en fait où il y a le plus de risques. C'est là le risque de passage à l'acte ultra violent. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'elles ne soient pas tuées à ce moment-là, ne serait-ce que juste pour ces femmes ? Donc il y a 230 000 femmes battues par an. Si on en prend, si on va dire qu'il n'y a que 10% qui essayent de s'en sortir parce que les autres sont encore sous l'emprise et tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait ? Alors il faut qu'il y ait des services de police qui soient tout prêts, qui soient efficaces, il faut qu'ils répondent de manière adéquate quand elles portent plainte ou au téléphone, il faut qu'elles puissent le protéger, et ensuite il faut que la plainte soit traitée, il faut qu'elles aient des associations pas loin. Donc on a regardé combien ça coûterait, quoi. C'est des services, hein, des services publics de protection. Ça coûterait, pour le minimum du minimum, donc s'il n'y en a que, j'en sais plus, on avait calculé sur 10%, s'il n'y a que 10% qui essayent de partir, il faut 500 millions d'euros. 500 millions d'euros, c'est pas gigantesque. Hein. Aujourd'hui, l'État y consacre 80 millions. Donc, déjà, ne serait-ce que essayer de sauver ces femmes, juste en augmentant le budget à ce moment-là de leur parcours, ça permettrait de sauver des vies. Et en fait, on le fait pas. Donc, on ne le fait pas. Et donc, il y a tous les ans 130 femmes tuées. Là, depuis janvier, ça explose. On est à 22 ou 23 femmes tuées depuis janvier. C'est un truc de fou. Donc là, on est carrément sur un pic. Et ça, c'est des choses qui sont des décisions politiques qu'on prend ou qu'on ne prend pas. C'est-à-dire, on va faire passer d'autres trucs avant. Il y a plus important que sauver la vie de ces femmes. Il y a plus important que de mettre un terme aux violences conjugales, aux violences intrafamiliales, aux violences sexuelles. Et ça, c'est des décisions que nous, on peut prendre ensemble. C'est des décisions qu'on peut appuyer ensemble. On peut dire que c'est important pour nous et qu'on a envie que ça se passe. Et pas juste important dans les discours, mais important dans les faits pour que la réalité, elle change concrètement. Donc ça, c'est pour les décisions de l'ordre du pouvoir public. Et nous, en tant que citoyens ou citoyennes, on peut agir là-dessus. C'est pas vrai qu'on peut rien faire. Déjà, en sachant ça, que l'État ne met pas ce qu'il faut pour le minimum du minimum de sauver des vies. Et ensuite, il y a ce qu'on peut faire en tant qu'individu. Alors, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, c'est pas exactement la même chose que vous pouvez faire. Dans les deux cas, vous pouvez faire plein de trucs, mais c'est pas exactement la même chose. Quand vous êtes... on a fait un petit film là-dessus. Quand vous êtes un homme, vous avez aussi un grand pouvoir sur la génération d'après, la génération des hommes d'après. Et si on veut éviter que les violences, elles se reproduisent d'une génération sur l'autre, c'est absolument essentiel de véhiculer une autre manière d'être homme. Et ça, c'est une responsabilité que vous, les hommes, vous avez. Pourquoi ? Parce que les petits garçons, ils vont vous voir comme des modèles. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que ce serait bien que les petits garçons voient plus les femmes comme des modèles ou quoi. Bon. Voilà, c'est prouvé un peu scientifiquement. Les petits garçons vont regarder leur papa, vont regarder leurs profs, leurs instructeurs, j'en sais pas, leurs coachs sportifs. Ils vont aussi regarder leur maman, évidemment, mais ils vont aussi s'identifier, évidemment, aux hommes de leurs entourages. Et donc, en tant qu'homme, vous avez déjà quelque chose de très simple. C'est pas simple, en fait. Mais bon, que vous pouvez faire, c'est montrer l'exemple. Montrer l'exemple. Et ça, c'est un rôle fondamental que vous pouvez jouer auprès des petits garçons autour de vous et éviter que les violences se reproduisent d'une génération sur l'autre. Et quand vous êtes... Et vous pouvez aussi, après, dans vos pratiques quotidiennes, quand vous voyez, quand il y a des femmes, faire attention, parce que quand on a un garçon, souvent, il faut savoir que ce sera plus facile pour vous, en tant qu'homme, de couper la parole et personne ne dira rien. Ou votre voix sera vue comme étant plus légitime sur tous les sujets. Donc si une femme, dans une réunion où il n'y a quasiment que des mecs, il y a une femme qui donne une idée, c'est pas sûr qu'elle soit écoutée de la même manière que vous. Et donc une chose que vous pouvez faire, c'est appuyer son idée, si elle est bonne. Hein. C'est dire par exemple, mais comme dit Machinette, et je trouve que c'est une super idée, et bien la citer, pas lui voler son idée. Comme dit Machinette, et c'est une super idée, et donc valoriser. Et ça, c'est des petites choses que vous pouvez faire au quotidien et qui changent vraiment la donne. Et après, quand on est une femme... Il y a plein de trucs qu'on peut faire aussi. Mais c'est vrai que moi, ce que je me dis de plus en plus, c'est que si on apprenait vraiment aux petits garçons, aux générations d'après et aux générations d'aujourd'hui, hein, des trucs tout simples comme il ne faut pas taper les dames, il ne faut pas les violer et il ne faut pas les écraser, bah nous, les femmes, on aurait moins de taf. Et les féministes, on aurait moins de boulot et ça irait vachement mieux. Donc il y a aussi ça qui est à prendre en compte. Évidemment, dans l'éducation, les femmes aussi ont un rôle très important à jouer et dans la manière dont elles éduquent leurs fils et dont elles éduquent leurs filles, ça c'est clair. Mais c'est pas la même chose, quoi. Voilà.
Je vais me permettre de réagir parce que je suis avocate depuis 40 ans. Je défends énormément de femmes qui sont tapées par leur mari. J'en défends à peu près une centaine par an. Et sur ces jeunes femmes, j'en ai que 20 qui viennent aux audiences parce qu'elles ne continuent pas leur procédure. Et je voudrais quand même, contrairement à vous, considérer qu'il y a énormément de progrès qui a été fait en 40 ans. Par exemple, je dépends d'un département de Seine-et-Marne où nous avons un énorme département, et tenez-vous bien, pour le département de Seine-et-Marne, nous n'avons que 30 téléphones grand danger. Ça veut dire qu'il y a 30 femmes dans ce département qui est le plus grand de France, qui est en progression de densité énorme, qui peuvent être protégées par ces téléphones grand danger. Elles peuvent avoir ce téléphone grand danger pendant un mois, et la plupart du temps, ces femmes nous le rendent au bout de 48 heures, parce qu'elles ne peuvent pas vivre autrement que dans la cellule familiale. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de structure suffisante à SOS Femmes, parce qu'elles ne peuvent pas quitter leurs enfants, parce qu'il n'y a pas d'hébergement pour elles et leurs enfants. Mais néanmoins, c'est beaucoup mieux qu'il y a 40 ans, puisqu'il y a 40 ans, on ne les voyait même pas, ces femmes. Par contre, alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur la répression, car au contraire, la répression en matière d'attouchement sexuel, de viol entre concubins, entre conjoints, devient de plus en plus répressif. Aucun homme aujourd'hui en juridiction ne sort sans un bracelet électronique, sans effectivement une prise en charge immédiate du juge d'affaires familiales et du juge d'application des peines. Aucun homme aujourd'hui qui commet un attouchement ou un acte de violence physique sur son conjoint, que ce soit un concubin ou que ça soit un concubin ou une personne mariée, ne sort sans contrôle du juge d'application des peines. Ce qui est très lourd, hein, je ne vous cache pas, dans une juridiction comme Meaux, il y a 5 juges d'application des peines seulement. Donc la gestion des hommes qui tapent, c'est très lourd. Effectivement, il faut comprendre que c'est très lourd et que passer quelqu'un en cour d'assises, c'est pas du tout facile parce que y a les trafics de drogue, il y a les meurtres, il y a autre chose, effectivement, qui vont passer avant. Vous savez qu'une affaire en cour d'assises, ça met 3 ans et demi à passer au cour d'assises. Donc soyons conscients, hein, quand même aussi, que la justice s'améliore, même si effectivement, c'est pas facile. Une audience de cour d'assises, ce n'est pas permanent. Ça ne tient que 3 semaines, 3 fois par an. Et donc, il faut passer effectivement les meurtres, les assassinats, avant effectivement les viols. C'est malheureux, mais c'est quand même comme ça. La préservation de la vie est quand même au-dessus du viol, peut-être. Voilà.
Alors, effectivement, depuis 40 ans, et je suis désolée si mon propos a pu donner l'image inverse, évidemment que depuis 40 ans, les choses se sont grandement améliorées. On le voit à tous les niveaux de pouvoir. On le voit aussi, ne serait-ce qu'au niveau politique. Et aussi le fait qu'on parle là aujourd'hui de féminisme, le fait que MeToo a été un mouvement mondial, il y a une prise de conscience avec des trucs qui vont jusqu'au un peu ce qu'on appelle le woman washing, c'est-à-dire que c'est devenu à la mode de se dire féministe et tout, mais ça veut dire que c'est à la mode, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc oui, les choses s'améliorent. Il y a une meilleure compréhension, et moi je pense que la Ligue du LOL et MeToo amènent ça aussi, une meilleure compréhension au sein de la population du fait qu'il y a plein de femmes à qui ça arrive, que c'est pas juste des personnes qu'on connaît pas, qui sont je sais pas où, c'est en fait, c'est sa sœur, c'est sa voisine, c'est sa collègue. Et donc en fait, on se rend compte que les violences faites aux femmes, c'est un peu partout, dans toutes les classes sociales. Et donc il y a cette prise de conscience globale, et d'ailleurs même mondiale, sur le sujet des violences faites aux femmes. Et ça, c'est absolument fabuleux. Maintenant, ce que je vous disais sur les condamnations pour viol, c'est des chiffres du ministère de la Justice. Donc le nombre de condamnations pour viol a baissé de 40% en 10 ans. Peut-être parce que c'est parce qu'il n'y a pas le temps, je ne sais pas. En tout cas, il y a moins 40%. Et ce qu'on voit aussi, et là, ça fait partie de nos inquiétudes, donc il y a évidemment le verre à moitié vide ou à moitié plein. Nous, ce qui fait partie de nos inquiétudes en ce moment, c'est la manière dont certaines dispositions dans le droit sont utilisées à un mauvais escient. Par exemple, comment aujourd'hui les procédures pour diffamation sont systématiquement utilisées contre les femmes qui ont porté plainte contre des hommes, et lorsque ces procès, par exemple, lorsque les instructions amènent à un non-lieu ou parce que prescription, parce que pas assez de preuves ou autre, on a systématiquement aujourd'hui l'accusation en diffamation. Et ça, c'est une manière de faire peur aux femmes, de se dire, fais gaffe, si t'as pas suffisamment de preuves, si ton dossier est pas suffisamment solide, c'est en retour de boomerang, c'est toi qui vas être condamné pour diffamation. Donc il y a ça aussi qui existe en ce moment, on l'a vu avec Beaupin, on va le voir avec d'autres affaires qui sont quand même un petit peu inquiétantes, et même si là j'espère que sur Beaupin ça va le faire, ça va être débouté normalement, mais quand même. Donc oui, les choses s'améliorent, mais en même temps, il y a des vagues un peu. C'est-à-dire que ce que je vois, ce qui est difficile à voir, c'est des fois je me lève le matin en étant déprimée, et des fois en étant hyper enthousiaste. Alors quand je me lève parce que je suis déprimée, c'est par exemple le jour de la manif contre l'avortement, où je vois qu'ils sont plus nombreux qu'ils n'ont jamais été, où je vois qu'ils sont hyper jeunes, je vois qu'ils ont utilisé les nouveaux codes des réseaux sociaux, les nouveaux codes de l'agit-prop, les trucs que nous on faisait avant, il y a 10 ans, avec des trucs sympas, colorés, bariolés, pour défendre l'environnement et les plus précaires. Et là, on voit que c'est eux qui utilisent ça, les codes un peu jeunes, bariolés, pour être contre l'avortement, le droit à l'avortement. Donc là, on se dit, alors est-ce que je dois flipper, ou est-ce que... Et quand on voit par exemple Trump, Bolsonaro, enfin il y a quand même une vague de fond hyper réactionnaire qui existe, qui est là. Les jeunes aussi de Eugénie Bastier et d'autres comme ça, qui sont quand même des jeunes femmes qui sont dans des discours complètement hallucinants, antiféministes au possible. On se dit, mais c'est un peu 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Alors on gagne un pas, mais ça prend beaucoup d'efforts pour gagner un pas. Et voilà. Donc des fois, je me dis, est-ce que c'est juste les derniers relents ? Parce que plus on va fort, plus la réaction est forte aussi. C'est plus c'est fort en face, parce qu'on touche, on s'approche du cœur du réacteur, donc c'est chaud, c'est fort. Mais ou alors, est-ce qu'ils sont en train de, je sais pas. Après, faut pas regarder La Servante Écarlate, quoi, parce que là, tu te tires une balle. Mais voilà. Vous connaissez cette série, La Servante Écarlate ? Enfin, c'est un livre à la base, d'ailleurs.
Bonjour. Moi, j'ai une question sur les processus de recrutement. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer en fait l'égalité homme-femme, si ce n'est par des quotas, ou en tout cas, là, l'université, c'est, on a des commissions paritaires avec autant d'hommes que femmes, mais je pense qu'il y a quand même un fort sexisme sur le recrutement. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait ? Ouais.
Bah, c'est vrai que... Alors, il y a plusieurs expériences qui sont assez rigolotes qu'il faut avoir en tête, en fait, quand on recrute. En fait, il faut avoir en tête ses propres biais, et qu'on soit femme ou homme, on les a, ses biais. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est femme qu'on va recruter équitablement. Et des hommes peuvent recruter plus équitablement que des femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des petits mécanismes à l'œuvre, que par exemple sont le fait de sentir qu'on ressemble à quelqu'un en face. Et en fait, on a plus de chances de se sentir un lien et de comprendre et de trouver qu'on se ressemble quand c'est le même sexe, en fait. Donc les hommes ont plus tendance à se voir comme leurs dauphins ou leurs petits eux quand ils étaient jeunes. Ils vont avoir plus de facilité à avoir cette espèce de connivence masculine. Et donc à se projeter sur la personne en face, si c'est un garçon. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que... Alors là-dessus, par exemple, ça a été vu sur des orchestres. Donc ça, c'est une... Je ne sais plus où elle a eu lieu, cette expérience. Je suis désolée, vous pourrez peut-être retrouver sur Internet. Mais donc, on avait testé un orchestre. Donc c'est assez simple, hein, c'est le talent, c'est le génie. Normalement, il n'y a pas de... Est-ce qu'on est femme ou est-ce qu'on est homme, hein, on va recruter le meilleur musicien ou la meilleure musicienne pour l'orchestre. On n'a aucun intérêt à recruter quelqu'un qui n'est pas bon. Sauf que, quand on met les gens derrière un paravent, les musiciens qu'on veut recruter, et que le jury ne voit pas si c'est un garçon ou une femme, on arrive à la parité dans les recrutés. Alors que quand on enlève le paravent, il y a une minorité de femmes qui sont recrutées par rapport à une majorité d'hommes. Et donc, on pourrait se dire, mais c'est fou, quoi, parce qu'en fait, normalement, c'est que l'oreille. Oui, c'est l'oreille, mais en fait, il y a tout ce qu'il y a derrière dans son cerveau de représentation depuis toute petite ou depuis tout petit sur le génie, sur les grands musiciens, sur les grands compositeurs. Et donc, alors même que c'est normalement que l'oreille qui travaille, le fait de savoir si c'est une fille ou un garçon, on va... trouver que un homme musicien est plus génial qu'une femme musicienne, alors même qu'elles ont le même niveau, voire que la femme peut être meilleure. Donc ça, c'est des choses à avoir en tête quand on recrute, je pense, c'est-à-dire se méfier de soi-même, se dire, ah, est-ce que se méfier de soi-même, se méfier aussi de la manière dont les femmes, elles se présentent. Vous avez sûrement déjà vu ça si vous êtes amené à recruter dans votre travail. Les femmes, elles vont pas vous dire combien elles veulent d'argent. Il faut leur demander, puis quand elles vont vous dire, elles vont s'excuser. « Ah, je suis désolée, j'aimerais... » Bah, faut pas être désolée, en fait, c'est un travail. Donc, c'est normal que tu demandes un salaire en face. Alors, je fais des généralités. Toutes les femmes sont pas comme ça, évidemment. Mais quand même, majoritairement, on voit que les hommes ont beaucoup plus de facilité à pouvoir avancer des prétentions salariales sans s'excuser. Et voilà. Ou alors, à se mettre en avant. Moi, ce que j'essaie de faire quand on recrute aussi, c'est que les femmes, elles ont tendance à dire « Dans mes expériences passées, on a fait. » Alors que les garçons... ont plus de facilité à dire « j'ai fait ». Et donc, quand moi, une femme dit « on a fait », j'ai « ok, qui a fait ? C'est toi qui a fait ou c'est quelqu'un d'autre qui a fait ? Et si c'est « on a fait », c'est plusieurs personnes, quel rôle avais-tu dans ce groupe-là ? Et ça, c'est des choses, voilà, il faut juste le savoir un peu, ça permet de recruter de manière plus équitable entre femmes et hommes. Évidemment, les jurys paritaires, c'est très bien, parce que ça évite le fait d'avoir plus d'empathie pour une personne de son propre sexe, et donc qui génère après de l'entre-soi, mais c'est-à-dire qu'il faut quand même que les personnes qui recrutent aient aussi en tête tous ces mécanismes qui biaisent les recrutements. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais c'est un peu la même chose pour les personnes racisées aussi. Hein.
Bonjour. Je trouve intéressant qu'on commence à parler un petit peu d'autre chose que de répression. C'est important la répression, je suis complètement d'accord. Mais la prévention me paraît fondamentale parce qu'on ne réalise pas que finalement la femme a la parole depuis très peu de temps. On a des carnets de chèques il y a 50 ans, 60 ans. On a le droit de vote en France. En plus, on est très en retard. On a été très en retard par rapport à d'autres pays. Et c'est l'homme qui pense et qui pense encore, qui pensait pour nous. Et on ne s'en rend pas compte. Et il faut s'en rendre compte pour arriver à s'en débarrasser. Même encore maintenant, on a des siècles et des siècles derrière nous où c'est l'homme qui pensait pour nous. Et on est encore imprégné de ça. Et il y a encore des femmes qui se croient bien pensantes. Quand j'entends dire des Badinter, oui, l'instinct maternel, ça n'existe pas. Bah, allez voir chez l'animal, vous verrez si ça n'existe pas. Parce que c'est des femmes multi-avortées, multi-blessées dans leur instinct maternel, qui font, voilà, une règle de leur souffrance pour atténuer cette souffrance. Il ne faut pas être dans le déni. Il faudrait vraiment qu'on accepte de réaliser ce qu'est une femme. Le combat des féministes est très très bien. Mais il y a des moments où on se trompe un peu de combat. Parce que le combat devrait être, mais qu'est-ce qu'une femme ? On est différente et on a le droit d'être différente. Et réaliser vraiment que notre sensibilité est différente. C'est les hommes qui ont tout pris en main, qui ont pris la contraception. Ah oui, bah, la pilule, c'est très bien, parce qu'il ne faudrait pas de pilule pour hommes. On risquerait de toucher à notre libido. On s'en fout si on touche à la libido de la femme. On la libère du risque de grossesse. C'est très bien, ça nous arrange. On fait croire aux femmes que ça les libère, mais c'est surtout pour nous arranger, nous. Et on n'a pas envie de toucher à notre libido, etc., etc. On est dans un système qui est encore pensé par les hommes. Moi, j'étais psychologue et dans mon cabinet, je peux vous garantir que les femmes, quand elles commencent à toucher à un moment où elles se sont fait avorter, c'est une catastrophe. Elles vivent ça, mais toutes, comme une mutilation, quelque chose de grave. Donc, on a des choses vraiment à faire pour faire que la femme trouve des solutions qui lui conviennent. On a quand même plein de solutions, on a plein de choses. Ne pas se laisser entraîner dans la pensée des hommes.
Alors, là où je convergerai avec vous, c'est sur le fait qu'effectivement, on est encore dans un regard masculin, un regard des hommes, en fait, sur tout, sur notre histoire, sur nous-mêmes, sur qu'est-ce que c'est qu'être femme. C'est au travers du regard des hommes. Là où je convergerai aussi, c'est qu'effectivement, et j'en parle dans mon livre, ce que les féministes m'ont raconté de mai 68, c'est que ça a été une libération sexuelle, mais ça ne s'est pas en suivi de l'égalité. Et en fait, la liberté sans l'égalité, c'est la victoire des plus forts sur les autres. Et les plus forts entre les femmes et les hommes, en tout cas dans le système actuel, parce que moi je pense que les femmes sont super fortes, c'est la victoire des hommes. Et une des manières de... Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la liberté sexuelle, ça veut dire qu'en fait il faut qu'on continue, parce qu'on ne l'a pas encore, qu'elle s'accompagne d'une conquête de l'égalité entre les femmes et les hommes, y compris dans la chambre à coucher. Et l'image que beaucoup de féministes de cette époque-là m'ont transmise et que je trouve assez éclairante, c'est en gros, avant il y avait des renards, ça c'est les mecs, ils étaient vus comme des prédateurs qui rôdaient autour des poules, qu'on enfermait donc dans un poulailler pour les protéger. Donc, pour protéger les femmes, elles n'avaient pas le droit de sortir, pas le droit d'aller au bal, pas le droit de machin. On protégeait leur virginité, on les protégeait parce que les hommes s'étaient vus comme des prédateurs. Et puis, libération sexuelle. On ouvre les portes du poulailler. Wouh ! Oui, mais en fait, il y a toujours des renards et toujours des poules. Donc, en fait, hors du poulailler, elles se font bouffer quand même, les poules. Enfin, elles peuvent se faire bouffer, quoi. Donc, cette image-là, moi, je trouve qu'elle est intéressante parce que ce que ça montre, c'est que le discours sur la liberté, il est fondamental, absolument nécessaire, etc. Les femmes doivent être libres. Mais s'il ne s'accompagne pas d'une réflexion sur l'égalité, on va avoir continuellement des situations où les femmes, elles ont l'impression de se faire avoir. Et voilà. Après, sur l'avortement, c'est pas vrai que toutes les femmes le vivent comme un drame. Il y a beaucoup de femmes qui se sentent soulagées d'avorter. Et donc là-dessus, moi, j'ai une position qui est peut-être pas exactement la même que la vôtre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'avortement, c'est pas... certaines femmes se sentent soulagées d'avoir avorté, ne le vivent pas comme un immense drame, au contraire, sont très contentes d'avoir pu avorter. 40% des femmes en France avortent, et c'est très bien qu'elles aient cette liberté-là, mais encore faut-il, et c'est là qu'il faut faire hyper attention, aujourd'hui des mouvements masculinistes nous font croire que l'égalité, ce serait que les hommes aussi aient leur mot à dire dans l'avortement. Ça veut dire qu'il faudrait que les mecs soient d'accord ou pas sur est-ce que la dame, elle a le droit d'avorter. Et ça, c'est ultra dangereux. On a des cas où, effectivement, des hommes font pression sur les femmes pour avorter parce qu'ils ne veulent pas, par exemple, de troisième enfant. Et là, les femmes, évidemment, le vivent terriblement mal parce qu'en fait, elles ont un désir de maternité. Et on peut avoir des situations où, au contraire, les hommes font pression pour que les femmes gardent l'enfant alors même qu'elles n'en veulent pas. Donc il faut faire très attention. Là encore, c'est une question de la liberté d'avortement. Si elle n'arrive pas avec la prise quand même de pouvoir des femmes sur leur corps et leur sexualité, ça peut être effectivement utilisé contre les femmes.
Alors, il y a deux petites remarques que j'aimerais faire. C'est vrai que c'est un drame social pour beaucoup de femmes de se retrouver enceinte à 15 ans ou etc. Ok. Et par rapport à ça, effectivement, c'est une libération. Mais il y a des degrés au niveau humain, personnel, émotionnel. Je vous assure que je n'ai pas connu un cas où quand on va fouiller, parce que c'est ce qu'on fait dans un cabinet de psycho, ça ressort des fois 40 ans après.
Mais les femmes, depuis des millénaires, sont censées devenir mères. C'est notre objectif ultime dans la vie.
Oui.
Donc forcément, si jamais on contredit la raison pour laquelle on est censé exister sur la planète, puisque c'est ça qu'on nous raconte quand même à longueur de journée, évidemment que ça a de quoi perturber.
Mais je veux dire qu'il ne faut pas le faire. Si on se fait avorter, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. C'est mieux de se faire dans un cadre médical que n'importe comment, en risquant sa vie. Mais ça doit être préparé, travaillé, parce que ce n'est pas anodin. Et il y a de la contraception actuellement et on devrait peut-être davantage informer les jeunes. Et il y a aussi autre chose qui me paraît importante quand on parle d'égalité. On confond quelquefois égalité et identité. On est égaux de droit, ça c'est clair et ça devrait l'être. C'est pas encore le cas. Mais on n'est pas identique. Et je pense que souvent on se trompe de combat. Les féministes, quelquefois, se sont trompées de combat. On n'est pas identiques. Mmh. On n'a pas besoin, forcément, de faire tout ce que font les hommes. On a besoin d'être reconnus dans ce qu'on est, nous.
Alors, deux choses là-dessus. Un, en réalité, moi, je pense que sur cette question de l'identique ou de la variété, en fait, je trouve que le fait de pouvoir se libérer de ces boîtes, de ces genres dans lesquels on est contraint depuis qu'on est né en fonction de notre sexe, c'est ouvrir une immense variété de possibles. En fait, c'est justement quand on dit les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, on condamne les hommes à être tous pareils, on condamne les femmes à être toutes pareilles. En réalité, les femmes sont plein de choses, les hommes sont plein de choses. Et en réalité, ce que les féministes elles disent, c'est que chacun ou chacune est absolument unique. Donc non, c'est pas parce qu'on est né avec un sexe féminin qu'on aime tel truc ou qu'on fait tel truc ou qu'on a cette compétence ou qu'on a ce caractère. Quand on est avec un sexe masculin, non, c'est pas pour ça qu'on va avoir ce caractère, ces compétences, ce génie ou pas. Et donc, au contraire, ce que font les féministes, enfin, tout ce que moi j'essaye de faire et de dire, et c'est ce que je dis aussi dans mon bouquin, c'est que, en fait, ça ouvre le champ des possibles, mais 10 000 fois plus que le fait de dire le féminin est comme ça et le masculin est comme ça. On échappe aux contraintes. On permet à chacune et à chacun de se réaliser en fonction de ses réelles capacités, rêves, connaissances. Alors, évidemment que de toute façon, si on dit que le genre est une construction sociale, encore faudrait-il savoir qu'est-ce que c'est sans la société pour pouvoir vraiment vérifier cette hypothèse. Et il n'y a pas d'humain sans société, donc c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, c'est quand même assez flagrant que la plupart des choses qu'on colle aux gens parce qu'ils sont femmes ou parce qu'ils sont hommes, sont quand même à côté de la plaque par rapport à ce que sont vraiment les femmes et vraiment les hommes. Et il y a sûrement des milliards de différences entre hommes, beaucoup plus fortes qu'entre un homme et une femme. Moi, j'ai plein de trucs en commun avec plein d'hommes sur ce salon. Et j'ai rien en commun avec plein de femmes qui sont, par exemple, au Front National. Pourquoi est-ce que c'est le sexe qui doit faire la ligne fondamentalement de différence fondamentale entre les humains? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas inventer d'autres catégories? Pourquoi est-ce que celle-là, elle est si importante? Pourquoi est-ce que celle-là, il faut qu'on l'affiche partout? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument savoir c'est une fille ou c'est un garçon? Voilà, même l'enfant n'est pas encore né, qu'il faut déjà savoir dans le ventre de la mère si c'est une fille ou un garçon. Mais pourquoi? Ça change quoi? Ça sert à quoi? Donc moi, c'est ce que je dis, c'est ça, c'est qu'au contraire, grâce au féminisme, on laisse à chacun et à chacune la liberté de pouvoir, enfin on essaye en tout cas, mais encore faut-il qu'il y ait l'égalité, de pouvoir explorer tout ce qu'elle est ou de ce qu'il est dans sa nature humaine et non féminine ou masculine, quoi.
Si je peux permettre une autre question, par rapport à la contraception, c'est vrai que ça repose essentiellement sur les femmes, hein. On a développé la pilule, le stérilet, voilà, ce qui est génial. Mais je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui il y aurait une volonté politique, je pense, de développer en fait la contraception masculine. Voilà, j'ai entendu parler des slips chauffants, mais ça n'a pas l'air d'être très, d'avoir été essayé à grande échelle. Est-ce qu'il faudrait vraiment en fait porter peut-être ce combat pour que la contraception repose pas que sur les femmes?
C'est vrai que ce qui est rigolo quand on regarde l'histoire de la contraception et de la recherche sur la contraception, on voit qu'en fait dans les années 60. Parce que c'est 67, Neuwirth. Ok, avant. On voit qu'en fait, il y a eu des recherches qui ont été faites pour une pilule masculine et une pilule féminine. Et la pilule masculine, ils se sont rendus compte que les hommes prenaient un peu de poids, avaient un peu des sautes d'humeur et une libido changeante. Ça vous rappelle un truc, mesdames? Et donc, ils se sont dit, ce sera insupportable pour les hommes. Et donc, ils ont arrêté les recherches. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est les femmes qui prennent la pilule. Alors, moi, je pense quand même que c'est important que les femmes, elles aient un contrôle sur leur propre corps, sur leur fécondité, et qu'en fait, que les femmes puissent décider par elles-mêmes et ne soient pas juste qu'elles aient vraiment la maîtrise. Et donc, dans ce cadre-là, la pilule ou le stérilet, après, on peut disserter de les hormones, tout ça, mais le stérilet, en tout cas, est très intéressant parce que c'est vraiment la femme qui décide ou pas de quand est-ce qu'elle peut... Voilà. Parce que si c'est monsieur qui prend la pilule, voilà. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus donner aux hommes la capacité de pouvoir également contrôler et de contrôler beaucoup plus leur fécondité. Il faudrait que les hommes puissent également effectivement avoir le choix de prendre la pilule pour pouvoir aussi contrôler encore mieux le moment où ils souhaitent devenir père. Mais l'histoire de la pilule est assez, assez rigolote, quoi. Et je crois que là, il y a des recherches qui font que ça reprend un petit peu. Mais il y a des tas de techniques quand même pour les hommes, ouais. Mais c'est quand même plus efficace en stérilet ou la pilule féminine pour le moment.
Moi, j'avais une petite question, peut-être idiote. Je voulais une définition exacte du féminisme et comment on pourrait devenir féministe.
Moi, la définition du féminisme, j'aime bien cette phrase, c'est la notion radicale que les femmes sont des humains. Donc voilà. Mais c'est juste, les femmes, c'est des êtres humains comme les autres. Voilà. Et c'est croire dans ce concept-là et dans toutes les implications que ça veut dire sur tous les aspects de la vie. Les femmes sont des humains comme les autres. Et comment devenir féministe? Si vous êtes d'accord, vous êtes féministe. Wouh!